Rendez pour se faire sur radio-g.fr. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve.
Radio G 101.5 FM.
Chase you out of earth.
Il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission de Génération Sport ce mardi 3 mars. Une première émission après ces petites vacances que s'est octroyé l'émission de 2 semaines. On a tous vaqué à nos occupations pendant ces 2 semaines pour revenir en pleine forme ce soir et tout le reste de la saison évidemment. Et pour m'accompagner ce soir, on a Robin à ma gauche. Salut Robin.
Salut Faustin, salut à tous, comment ça va?
Bah, ça va très bien et toi?
Ça va nickel, comme tu l'as dit, des bonnes vacances et puis de la grosse actu sport, des JO toujours pour nous accompagner, c'était très sympa.
Voilà, on en reparlera évidemment dans ce sommaire qui nous attend ce soir. Pour nous accompagner aussi, c'est Mathéo qui est avec nous. Salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Bah écoute, moi ça va mal. Ça va mal.
Ça va mal,
il y avait l'Olympico ce week-end, donc forcément ça se passe mal de mon côté. Mais non, tu parlais de belles occupations pendant les vacances, toi t'en as eu des belles aussi.
Oui, tout à fait, j'étais au sport d'hiver, un peu de ski.
Thématique.
C'est ça, thématique des JO, comme si j'y étais pour de vrai. C'était pas mal, ça m'a poussé à faire mes plus belles performances. 96 km/h en vitesse max.
Exceptionnel.
Pour tout vous dire. C'était mon record d'ailleurs. Voilà, donc pour comme programme, ce soir on commence avec les actualités locales, vous en avez l'habitude. On parlera de football évidemment avec la Ligue 1, la Coupe de France qui nous attend dès ce soir et les tirages des huitièmes de finale de Ligue des Champions et des autres Coupes d'Europe pour nos Français. On parlera d'un peu de MotoGP avec toi Mathéo, de tennis avec toi Robin et je conclurai sur du basket. On fera aussi un point, je l'avais oublié, sur les JO. On parlera rapidement parce qu'en ces deux semaines, on n'a pas pu parler donc des JO qui sont conclus. C'était la semaine dernière environ.
Oui, je crois, à peu près.
Qui sont conclus et on en tirera un peu nos bilans et les moments qu'on a retenus de cette compétition. Et on va commencer donc sans plus tarder avec le basket local qui est maigre un peu en actualité. L'UFAB qui n'a pas joué de match à la reprise du service le 7 février en affrontant Charnay. Trois matchs restants pour cette fin de saison et chaque match va être décisif pour espérer atteindre les playoffs. Du côté de l'EAB, les Angevins ont fini la phase de saison régulière avec deux victoires consécutives contre Poissy et le Pôle France. Malheureusement, on le savait déjà, mais ça n'a pas suffi pour accéder à la poule haute. Ils se retrouvent donc en poule basse et ne pourront pas espérer plus que le maintien cette saison. Et ça commence vendredi avec la réception de Metz. Match auquel je serai présent parce que j'ai eu des places gratuites, figurez-vous, parce que j'étais au match contre Poissy. Le dernier match à domicile qui a eu lieu avec des potes et ma copine. Et il y avait un pronostic du score à faire. Donc le score final qui était de 96 à 91. Ma copine avait pronostiqué 98-91. Et ben là, elle a remporté deux places pour le match contre Metz. Donc voilà, je serai présent vendredi à Jambouin.
Je la remercie.
Bah, tout à fait, je la remercie. Si elle nous écoute ce soir, c'est possible en plus. Merci ma chérie. Du côté de Cholet, pas de match non plus depuis la défaite en demi-finale de Leaders Cup contre Monaco. Ils affrontent à nouveau les Monégasques vendredi, toujours dans un objectif d'atteindre la première moitié du tableau. Du côté du SCO Rugby, maintenant victoire 10 à 17 contre le Mans. Les Angevins restent à hauteur d'Orsay à la tête du classement, mais prennent un point de retard en ne décrochant pas le bonus offensif ce week-end. Du côté des Ducs, victoire 3-2 contre Anglais en prolongation. Les Ducs sont toujours troisième à seulement deux semaines des playoffs. La première place semble actée pour Rouen avec ses 101 points. Cependant, seulement deux points derrière Grenoble, les Ducs peuvent encore espérer finir deuxième. Du côté du Scorand, maintenant, une nouvelle défaite, là aussi, contre Cherbourg, 32 à 23, septième défaite consécutive concédée par les Angevins. À la 14e place, maintenant, ils ne sont plus qu'à un point d'écart avec Massy, dernier du classement. Il ne faudrait pas éviter un scénario catastrophique et une nouvelle dernière place pourrait être synonyme de descente cette fois-ci. Parce qu'on le rappelle, ça fait déjà deux saisons que les Angevins finissent dernier de Pro League et ne descendent pas pour des raisons financières et non sportives. Ce serait bien de se maintenir sportivement cette année parce que le maintien financier n'est jamais assuré de toute manière. Du côté du SCO maintenant, SCO Foot, défaite 2 buts à 0 contre Monaco, troisième défaite d'affilée pour les SCOistes qui ont cette fois sombré en l'espace de seulement 5 minutes en encaissant ces deux buts coup sur coup. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match autour de la table?
En soi, c'est pas forcément une défaite logique compte tenu de la physionomie de la rencontre. Monaco a dominé, mais le SCO a eu des occasions. Donc c'est aussi ça qu'il faut garder en tête, c'est que le match aurait pu basculer. On a forcément cette action en tête de Beldim, ce face à face qui est remporté par Philippe Keun, qui aurait pu faire la différence véritablement. Donc je pense qu'Angers peut plutôt être content. Sur les trois dernières défaites, c'est Lorient qui marche très bien, Lille, Monaco. Donc on a quand même des grosses équipes, des équipes qui fonctionnent aussi. Et le SCO a pris deux buts, mais c'est deux buts aussi qui pourraient être évitables. On va peut-être revenir dessus, mais j'ai pas forcément envie de cracher sur Ponak à 19 ans, etc. Il y a un but qu'il aurait pu éviter, et l'autre peut-être pas, face à son manque d'expérience peut-être sur le cafouillage sur le but de Balogun, enfin qui est peut-être un contre son camp de Camara, je pense.
Bah je crois qu'il est octroyé à Balogun finalement, mais c'est peut-être Camara qui a
fait un dernier, ouais, ça. Et c'est vrai que là on est plutôt sur un manque d'expérience par rapport à son positionnement. Mais c'est vrai que c'est dommage pour le SCO, et derrière la zone de relégation arrive vite aussi.
Voilà.
11 points d'Auxerre, 13 de Nantes.
Donc le SCO donc à 29 points à la deuxième position, Auxerre est 16e avec 18 points, Nantes 17e avec 17 points et Metz dernier avec 13 points. Ton côté Robin, ton avis sur cette rencontre ?
Bah moi pour être honnête, on y reviendra tout à l'heure avec la Ligue des Champions, mais en ayant vu la double confrontation et surtout enfin que ce soit le match aller et le match retour d'ailleurs face au Paris Saint-Germain, je m'étais dit bon, j'attends pas grand-chose sachant que la forme n'est pas non plus optimale du côté des Angevins, j'attends pas grand-chose de ce match, et puis finalement ça n'a pas été non plus l'écart n'a pas été abyssal entre les deux équipes, mais voilà, comme l'a dit Mathéo, on a deux buts un petit peu bêtes, si je puis dire, un petit peu évitables, mais non, le SCO n'a pas été non plus ridicule. Voilà, après si je puis dire, on peut dire que la logique a été respectée sur les trois derniers matchs. Voilà, le SCO n'était pas favori, et puis on a, ça fait quand même trois défaites d'affilée, et puis on a ce match face à Nantes, ce semblant de derby qui se dessine ce week-end. Donc, il va falloir aller prendre les points parce que là, ça commence petit à petit à se rapprocher les relégables. Donc, il va falloir faire attention pour le SCO, et il va falloir gagner des points parce que ça commence à grouiller. Là.
Exactement, il va falloir rebondir. On le disait donc samedi contre Nantes, 17h à la Beaujoire. Ce sera le match crucial un peu pour cette fin de saison. Une victoire scellerait peut-être le maintien définitif des Angevins qui serait donc à 32 points. Et puis, ça enchaînerait avec un match contre Nice en réception à Argenbois, j'allais dire à Raymond Kopa.
Il y a la place aussi. Hein.
Oui, évidemment, c'est ça. Ces deux équipes, c'est deux matchs charnières de cette fin de saison, parce qu'après, ça enchaîne Lens et Lyon. Ouais. Là, ça va être plus compliqué. Donc, c'est deux victoires quasi impératives pour s'assurer ce maintien. Et pourquoi pas aller chercher la première moitié de tableau. L'Europe semble quand même de plus en plus compliquée à atteindre. On va rester modeste, même si on y croyait pendant un moment. C'est bien dommage. Mais ouais, en tout cas, Nantes, ce sera un match charnière, surtout vu la forme des Nantais en ce moment, n'est-ce pas, Mathéo ?
Oui, forcément, Nantes qui a seulement deux victoires à domicile cette saison, dont la dernière contre Le Havre il y a deux semaines maintenant, enfin une semaine et demie à peu près. Donc forcément, oui, cette équipe de Nantes, elle peut être facile à aller chercher à la Beaujoire. Maintenant, c'est vrai, l'état de forme du SCO est pas bon, on en a parlé, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais spécifier un truc, parce qu'on l'a pas dit encore, mais le SCO a beaucoup perdu, hein, évidemment, pendant le mercato hivernal. Donc, le SCO s'est vu beau. Il fut un temps où il avait des joueurs qui étaient tout aussi beaux que la manière dont il se voyait. Donc forcément, ça joue. Je trouve qu'il y a quand même des satisfactions, des joueurs qui ont une régularité aussi et qui peuvent faire mal à cette équipe nantaise. Je pense bien sûr à Abel Kebla, forcément, qui est toujours aussi bon, qui a été quand même, je trouve, assez bon face à Monaco. Et puis Prosper Peter, encore une fois, c'était le questionnement. Voilà, si Lucky Sheriff part, Prosper Peter était plus titulaire à la pointe de l'attaque. Est-ce qu'il peut, à son jeune âge, gérer cela? Je trouve qu'il l'a très bien fait contre Monaco. Il a eu des choses intéressantes. Il a une polyvalence que je trouve vraiment, vraiment intéressante, encore une fois. Donc c'est tout un collectif. On va avoir aussi le retour de Vanden Bomen quand même, qui était pas présent ici. Kofi qui sera absent, donc ça va aussi être un questionnement. Mais je pense que ça peut le faire, et le SCO doit au moins repartir avec le nul, sinon ça sera quelque chose de très négatif.
C'est clair, la saison dernière c'était reparti avec les 3 points sur la pelouse de la Beaujoire. On verra ce que ça donne ce week-end. Je vous propose aussi de revenir sur le match contre Lille qui a fait polémique, parce que donc c'était pendant les inondations à Angers. Heureusement maintenant la Maine descend grandement et la ville n'est plus trop affectée, mais c'était pas le cas donc contre ce match contre Lille, où on savait s'il allait jouer à huis clos, il y avait la possibilité de le reporter, mais pour des raisons sportives, le club a voulu maintenir ce match. Résultat, une défaite, un stade vide, des supporters à rembourser. Ils ont donné des places pour le match contre Nice, il me semble, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce choix du SCO, qui reste quand même assez mauvais après coup?
Bah, moi, je trouve ça discutable. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Robin, aussi, mais moi, je trouve ça discutable. Ouais.
Bah carrément, et surtout que moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui a péché dans le match du SCO, dans le sens où Moi, j'ai pas vu non plus une formation lilloise qui a été très dominante dans ce match. Mmh. Voilà, ils ouvrent le score juste avant la mi-temps avec un penalty d'Olivier Giroud, mais voilà, je pense que déjà d'un point de vue d'organisation, comme tu le dis, voilà, faut rembourser ou soit faut donner des places pour les autres matchs. C'est assez compliqué. Et puis surtout dans ce que ça peut permettre d'apporter aux joueurs dans un potentiel résultat face à Lille. Moi, j'ai trouvé vraiment que les supporters auraient pu vraiment être un bonus, un plus pour aller chercher au moins le point du match nul. Donc je trouve ça assez préjudiciable. Mais voilà, les conditions sportives ont primé.
Et puis ça nous a donné un relent de Covid aussi qui n'est pas forcément agréable en bouche.
On a pu tout entendre, etc.
En plus, le match. Bah, ça c'est intéressant.
Ça c'était intéressant.
Mais c'est le seul côté. Ouais. Et puis c'est vrai que le SCO avait pas forcément une envie folle. On l'a senti que ça a eu un impact. Pourtant, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur l'ambiance à Raymond Coppa, mais force est de constater que ça parle aux joueurs, en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez dommage parce qu'au final, cette équipe lilloise, effectivement, elle n'a pas été grandiose. Je ne sais pas si elle était prenable non plus. Ça reste une équipe solide, mais il y avait peut-être quelque chose à aller chercher. Et puis sur l'aspect administratif, je pense que ça va être très très chiant aussi pour les gens qui bossent dans les bureaux SCO. Donc pas forcément très positif, effectivement.
Non, car le KDLB a évidemment réagi en plus sur cette situation avec un communiqué. Il demande un rendez-vous. Il me semble que ça a été fait avec les dirigeants du SCO pour discuter de la situation. C'est les joueurs aussi qui ont dit après le match en conférence que c'est vrai qu'un soutien des supporters aurait pu leur être bénéfique pendant cette rencontre. Ils s'en sont rendus compte. Et ça apprendra au club de respecter un peu ses supporters, même si l'ambiance à Coppa peut être, tu l'as dit Mathéo, discutable.
Elle est ce qu'elle est, mais elle existe.
C'est pas la meilleure de Ligue 1, on le sait et tout le monde le sait, mais force est de constater qu'elle a quand même un impact sur les joueurs, leur morale et donc sur leur jeu directement. Voilà pour ce qui est du SCO, on va évidemment rester dans le football et parler plus largement de la Ligue 1 avec toi Mathéo.
Oui, puisqu'on arrive à 10 rencontres du terme de cette saison de Ligue 1 avec cette 24e journée qui a commencé sur les chapeaux de roue avec un choc, celui entre Strasbourg et Lens. Des Lensois qui devaient s'imposer sous peine d'être distancés par le Paris Saint-Germain en classement, mais rien ne s'est passé comme prévu. Panicelli ouvre le score dès la 18e minute et malgré le but de Mamadou Sangaré et leurs 20 tirs, les Lensois repartent de la méno avec un point. Samedi, c'est Rennes qui continue sa série avec une troisième victoire consécutive en Ligue 1 après Paris, Auxerre. C'est au tour de Toulouse de s'incliner face aux hommes de Franck Haez avec un but d'Arnaud Nord. Voilà, un petit peu de nostalgie aussi. Monaco a ensuite battu le SCO et dans la soirée, le Havre a donné du fil à retordre au PSG avant de logiquement s'incliner sur la plus petite des marges. 1-0 dimanche était une journée particulièrement attendue dans la lutte pour le maintien avec des Niçois qui s'enfoncent un peu plus au classement après cette défaite 1-0 contre le Paris FC. Lille a ensuite battu Nantes 1-0, puis Lorient et Auxerre se sont neutralisés de partout. Metz a à nouveau perdu à domicile, cette fois-ci contre Brest 1-0 et puis en fin de journée, l'OL s'est incliné au Vélodrome dans un Olympico qui a rempli toutes ses promesses. 3-2 au classement, le Paris Saint-Germain prend ses distances avec Lens désormais à 4 longueurs du leader parisien. Juste en dessous, la bataille pour la Ligue des Champions est relancée. Lyon, Marseille, Lille et Rennes se tiennent dans un mouchoir de poche. 5 points entre les Lyonnais 3e et les Rennais 6e. Tout en bas du classement, c'est Metz qui ferme la marche avec 13 petits points à 4 longueurs de Nantes et 5 d'Auxerre. La zone de relégation qui se rapproche donc pour des Niçois qui ont désormais 6 petits points d'avance sur les Aigistes. C'est pas facile à dire. On dit Ajaïste ou Aïjaïste, je sais plus.
Ouais, je l'ai pas, celle-là.
C'est un surnom qui est pas facile. En tout cas, la prochaine journée commencera avec un choc entre le PSG et Monaco. Un troisième confrontation entre les deux clubs sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, incluant évidemment la double confrontation en Ligue des Champions. Avant de nous offrir ce derby, donc, entre le SCO et le FC Nantes, dimanche, Lens devra se relancer à Metz, Nice devra réagir à Rennes, et l'OL cherchera à se relancer en clôture face au Paris FC. Avant cela, évidemment, la Coupe de France et les quarts de finale. 8 équipes sont encore en lice avec 7 équipes qui évoluent dans l'élite. Lorient, Nice, Lens, Lyon, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Seul un intrus, donc le Stade de Reims, 3e de Ligue 1, qui tentera d'ici quelques minutes de composter son billet pour les demi-finales à la Méno. Mais avant de parler de la Coupe de France, voilà, j'ai fait une petite introduction. Revenons-en à cet Olympico. Messieurs, qu'est-ce qu'on a pensé de cette rencontre? Déjà, est-ce qu'on a regardé ce match de votre côté?
Non, pas de mon côté. Toujours pas d'abonnement Ligue 1 Plus. Donc,
Il faut payer.
Ah, désolé.
Et toi, Robin?
Bah oui, écoute, moi j'ai l'abonnement Ligue 1 Plus, justement, heureusement, partagé avec un collègue pour payer moins cher. Mais voilà, ça nous a permis de voir un super match dimanche, un match vraiment animé, tout comme on en parlait, tout comme le Strasbourg-Lens qui a été une bonne pub pour la Ligue 1 vendredi. Mais non, un match assez plaisant. Je m'attendais à beaucoup d'indécisions entre un Marseille qui psychologiquement, on le sait, le contexte est pas du tout au top. Et ça, voilà, je savais pas où ils étaient psychologiquement les Marseillais. Et puis d'un côté Lyon, de l'autre côté pardon, qui avait énormément de blessés, dont on savait que sportivement ça allait être pas facile non plus. Donc voilà, on s'est bien régalé. Je trouvais pas non plus Marseille, donc qui repart avec les 3 points largement au-dessus. Voilà, les deux équipes pouvaient largement mieux faire, mais les Lyonnais peuvent nourrir beaucoup de regrets, dans le sens où ils ont eu beaucoup de fois l'occasion, quand il y avait un partout, de mener 2-1, quand il y avait 2-1, de passer à 3-1 et de faire le break. Donc voilà, finalement c'est l'OM qui remporte ce match, et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Voilà, on va voir ça dans les prochains jours avec ce match en Coupe de France, qui est un de leurs grands objectifs de la fin de saison, en plus de la qualification en Ligue des Champions. Mais voilà, un OM assez non pas on va dire exceptionnel, mais un OM un petit peu retrouvé, contrairement au dernier match qu'on a vu, notamment face à Brest, etc., où c'était plus compliqué dans le jeu.
Oui, c'est une rencontre qui était assez, ou en tout cas plus serré que ce qu'on aurait pu en dire avant la rencontre, dans cet aspect-là justement. Ça relance totalement aujourd'hui la course quand même à la Ligue des Champions, il faut le dire, où effectivement le podium n'est plus qu'à 5 points pour des équipes comme Rennes, comme Lille, même Monaco, qui revient donc à 8 points, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Du podium, donc ça relance un petit peu tout, alors que si l'OL avait gagné, l'OL était à 8 longueurs de Marseille, à 8 longueurs de Lille, de Rennes, etc. Donc ça rebat les cartes. Moi, ça me permet de vous questionner quand même, qui sera en Ligue des Champions là avec les formes actuelles? C'est assez difficile à dessiner, mais s'il y avait vraiment des favoris pour vous, qui serait-il, Faustin?
Le PSG sans contestation, je pense que tout le monde serait d'accord. Lens peut le faire aussi. Il y a quand même un petit matelas encore de 8 points sur Lyon. Et après, ça va se disputer surtout sur la troisième place. Donc entre Lyon et Marseille, je pense que c'est là que ça va se jouer. Je vois pas Lille, ni Rennes, ni Monaco revenir à hauteur des Lyonnais ou des Marseillais. Si je devais faire un choix, j'aurais envie de dire Lyon. Mine de rien, que je sens plus en forme peut-être. je fais ça parce que t'es là, hein. Si Amaury avait été là, j'aurais dit l'inverse. Mais non, mais en vrai, ouais, parce que ça peut être aussi, ce match mine de rien peut être le point de bascule de cette course-là, où Marseille peut vraiment prendre le devant et Lyon peut couler. Mais je le vois pas comme ça, honnêtement. Je vois peut-être un exploit ici de Marseille qui va pas durer. Je les vois pas sortir la tête de l'eau tout de suite. Peut-être faire un meilleur parcours en Coupe de France, mais sortir seulement une quatrième place en Ligue 1 et pas aller chercher la troisième place.
Quatrième place, ce qui serait aussi synonyme de barrage,
oui,
du coup, en Ligue des
potentiellement,
Champions, potentiellement.
Ligue,
ouais. Oui, c'est vrai, potentiellement, c'est pas si défini que ça, parce que
en fonction du vainqueur de l'Europa League, ça peut se jouer. Je crois, si le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié en Ligue des Champions, il me semble que ça offre une quatrième place directe. Il me semble que c'est ça. Le fonctionnement.
Sinon, c'est la Coupe de France.
Sinon, c'est la Coupe de France aussi.
Et du coup, c'est ça. Donc, est-ce que là, Paris est sorti? Donc, si Paris gagne, enfin, en général, voilà, c'est ce qu'on dit chaque année. Voilà, on est sûr que Paris, voilà, mais ça ne se fera pas vraisemblablement. Donc, derrière, il faudrait que ce soit Lyon, Lens ou Marseille potentiellement pour que ces trois équipes-là se qualifient. Donc, en fait, on est vraiment sûr de rien.
C'est ça.
C'est ça qui va être assez intéressant sur cette course à la Coupe d'Europe en fin de saison. Donc on verra bien ce qui se profilera, les différentes formes à venir aussi, hein. C'est vrai que Rennes a un nouveau coach depuis très peu de matchs, ça marche bien. Franck, ça marche bien, mais bon, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Habib Bey, est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Est-ce que Lyon va se casser la gueule? Vraisemblablement non, parce qu'il y aura des retours de blessés, mais on ne sait jamais, hein. C'est encore une fois des coups de couteau qui font mal. Et puis est-ce que Lille va continuer aussi dans cet état de forme-là, avec un effectif qui a quand même été renouvelé il y a à peine un an? C'est beaucoup de questions.
Tout à fait, auxquelles on n'a pas forcément les réponses.
Exactement. Mais en tout cas, là où on a des réponses, c'est sur le fait que l'OL et l'OM sont encore en lice en Coupe de France.
Tout à fait.
Et qui pourraient donc s'affronter en demi-finale, comme en finale d'ailleurs, si bien sûr victoire il y aurait au conditionnel sur leurs adversaires respectifs, à savoir Lens et Toulouse. Hein, on rappelle l'ordre des matchs. Donc, ce soir, Strasbourg accueille Reims. Demain, c'est Toulouse qui se déplace au Vélodrome, et Lorient et Nice qui s'affronteront au Moustoir. Et puis, ces quarts de finale se clôtureront entre le deuxième et le troisième de Ligue 1 jeudi, juste après le tirage au sort des demi-finales. Donc, Lyon reçoit Lens à 21h10. Qui, selon vous, composera le tableau du dernier carré de cette Coupe de France? Je vous le demande. Quelles seront les quatre équipes?
Déjà, le match de ce soir, je vois quand même Strasbourg s'en sortir. qui a fait un bon match ce week-end et qui peut, bah, qui a largement les capacités de battre Reims, c'est clair, surtout sur leur pelouse. Après, Lorient-Nice, son état de forme ne les fait pas mentir et les fera passer contre Nice, à mon avis. Marseille, pareil, quand même, contre Toulouse, ils vont faire le taf. Là où, évidemment, je pense, comme tout le monde, avoir la plus grosse question, le plus gros match, ce sera ce Lyon-Lens. Et sur la pelouse lyonnaise, j'ai envie de dire que les Lyonnais vont passer.
Merci, encore.
Moi, je rejoins Faustin sur tous les pronostics. Voilà, Strasbourg qu'on affichait un beau visage face à Lens, on l'a dit, ça devrait passer pas sans trop de problèmes, parce que Reims est tout de même troisième de Ligue 2, mais voilà, je pense que ça va le faire pour Strasbourg. Je pense que Lorient qui affiche un très beau visage et une bonne dynamique malgré le nul ce week-end face à un Nice complètement perdu, ça va passer pour moi. Et puis après Marseille malgré les difficultés, voilà, peut-être que ça va leur aider et ça va les aider, pardon, la victoire face à Lyon ce week-end, et je les vois passer. Et puis après, voilà, si c'était à Bollard, j'aurais peut-être plus donné avantage à Lens. Mm. Mais du fait que Lyon soit à domicile au Groupama Stadium, poussé par leur public, etc., moi je pense que ça va passer. Et puis je rajouterais quand même que moi, au bout du bout, je vois une coupe pour l'OL. Voilà, que je sens potentiellement peut-être une. Si c'est une demi Lyon Marseille, ça peut se discuter, mais je vois Lyon au bout du bout décrocher cette coupe.
Alors ce qui est sympa, c'est que tu me devances dans mes questions, et en plus c'est pour me dire un truc qui fait plaisir, donc c'est très cool. Je vais me permettre, avant pareil qu'on donne nos pronostics peut-être finaux sur tout ça, me permettre de faire mon pronostic quand même aussi.
Donc
donc moi je vois effectivement Strasbourg battre Reims, surtout que Reims serait sur 4-0-0 de suite, donc ça c'est quand même assez notable en Ligue 2. Donc à moins d'un grand réveil, d'une grande soirée, ça ne fonctionnera peut-être pas pour Reims. Toulouse-Marseille, je pense que ça peut être piège, parce que surtout que cette année c'est une très belle équipe toulousaine qui nous propose du très beau jeu, mais encore une fois Marseille sort d'un Olympico victorieux, etc. Ça va compter pour beaucoup, donc je vois Marseille effectivement passer. Lorient-Nice, moi je serais plus sur une victoire de Nice pour le coup, parce que je trouve que c'est vraiment la compétition qui peut potentiellement relancer Nice. Si effectivement il y a élimination demain contre Lorient, ça pourrait être aussi synonyme de barrage, hein. Globalement, si tu sors de la Coupe de France, ça veut dire que tu arrives sur aucun tableau, et là c'est vraiment compliqué. Donc je pense que effectivement Nice peut faire quelque chose contre Lorient, et puis évidemment je vais mettre Lyon en grand vainqueur, j'ai pas le choix contre Lens, mais je pense que ça va être une rencontre très disputée.
C'est clair.
Et surtout avec peut-être deux des trois grands favoris de cette fin de Coupe de France. Robin, toi tu m'as donné ton favori, ouais, c'est l'OL. En cas de finale, en tout cas contre Marseille. Et toi, Faustin?
Bah moi, j'ai envie de te dire, c'est le vainqueur de ce Lyon-Lens qui finira vainqueur de la Coupe de France. Là, j'ai mis Lyon vainqueur, mais si Lens passe, qui est quand même aussi plausible, je vois bien Lens l'emporter sur Marseille, pareil, en finale. Je sais pas comment il fait le tableau. Mais pas de tableau, je crois.
Il y a pas de tableau.
C'est tirage demain. Enfin non, après-demain du coup, jeudi soir.
Il y a pas de tableau, donc faudrait espérer avoir une finale Lens Marseille. Que ce soit ou Lyon Marseille Mathéo, mais pour que ce soit le plus beau possible, j'ai envie de dire, mais ouais, ce sera pour moi le vainqueur de ce Lyon-Lens qui remportera la Coupe de France.
Ouais, effectivement, il y a un truc qui va jouer aussi dans les la tête et les esprits aussi, c'est les tirages. Je pense que juste avant le match, parce que c'est vraiment juste avant, donc ils vont savoir en tout cas juste avant de jouer contre qui ils tomberont. Et c'est vrai que c'est pas la même chose. Tu te mets pas le même stress, on va dire, si mettons Reims passe contre Strasbourg et tu tombes contre Reims que tomber contre Marseille.
Enfin, évidemment. Même les pelouses, si tu joues au Vélodrome, si tu joues à Bollard, ça a rien à voir. Donc
effectivement, ouais. Donc on verra bien.
C'est important.
Mais ça fait une bonne pub pour Beansport, ce que tu nous dis sur Lyon-Lens, Faustin. On verra en tout cas ce que ça donnera, mais évidemment, moi je serais très content que Lyon reçoive enfin un trophée. Voilà, j'ai presque jamais connu de trophée de ma carrière de supporter.
On ne doute pas une seule seconde, t'en fais pas.
J'espère que ça se fera.
Ben voilà, on l'espère aussi pour toi, hein. Peut-être que Paul et Amaury l'espèrent un peu moins, mais ils ne sont pas là pour le dire ce soir, tant pis pour eux.
Ouais, tant pis.
Fallait être là, les gars. Voilà pour ce petit volet football français. Avant de passer à la Coupe d'Europe, on va passer à la pause musicale et on va s'écouter Culinane de Guy de Besbar.
Junior à la pointe, Zamé.
Allez, t'as pas compris, c'est fini ma bé. Smoker la pop, Baba Marley. Monaco de B sous carplay. On arrive ma bé. Toujours la quiche qui fait parler. Elle
body sur la jaquette. Toujours le truc qui fait jamais. Pour tes gars, on te calo, rien que ça fait flan. Dès qu'il a sur le pop, 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 on est full détente.
On full détente.
Baby, cortège, Kulinam, c'est l'équipe la plus méchante.
La plus méchante.
T'appelle, enveloppe, papa, je compte plus combien je dépense. Ah ouais. T'es jaloux, t'es comme un fou pourri dans le barrio. Pendant que je m'amuse à changer d'Ilon Hélico. Pop, 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 c'est la course au million. C'est chaud dans ma tête, c'est le carnaval de Rio. Petit cigario, ralenti comme des sicarios. Allez, t'as pas compris, c'est fini ma paix. Smoker la pop, 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 m'aller. Monaco de B sous carpet. On arrive ma paix. Toujours la quiche qui fait parler. Elle fait beauté sur la jaquette. Toujours le truc qui fait jamais.
C'est
faux. J'appelle enveloppe papa, j'compte plus combien j'dépense. Baby, cortège, Kulinam, c'est l'équipe la plus méchante.
Et voilà, c'était Kulinam de Guy de Besba. Excusez-moi pour cette petite erreur de manip en début de pour lancer le son. J'ai lancé le générique à la place.
Tu voulais me rappeler des mauvais souvenirs de ce week-end.
Ouais, autant pour moi. On a lancé Jump de évidemment la musique d'intro des joueurs de l'OM sur la pelouse du Vélodrome. Mais en tout cas, vous êtes toujours bien sur le 101.5 FM ou bien sur le site www.radio-g.fr. On est parti pour cette deuxième partie d'émission et on va commencer sans plus tarder avec les compétitions européennes de football. Avec toi, Robin.
Oui, puisque on connaît désormais tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après les barrages retour de la semaine dernière. Dans le duel franco-français, le PSG, loin d'être exempt de tout reproche après le match aller, malgré une victoire 3-2, a une nouvelle fois tremblé face à l'AS Monaco, puisque les champions en titre menés 1-0 à la mi-temps ne sont pas passés loin d'être amenés en prolongation face à des monégasques une nouvelle fois réduits à 10 comme au match aller. Un match nul, 2 buts partout et une qualification certes pour les Parisiens, mais qui, on va y venir après, nourrit de nombreuses interrogations et doutes compte tenu de la suite de la compétition. Il n'y avait évidemment pas seulement ce match-là au programme, mais il faut le dire qu'on s'est plutôt bien régalé puisque mardi, dans un match spectaculaire, l'Atlético Madrid a parfaitement ouvert le bal avec une victoire 4-1 face au Club Bruges après un match aller aussi riche en buts qui s'était soldé sur le score de 3-3. On a également eu le droit mardi à la grosse surprise de ces barrages puisque l'Inter Milan, finaliste l'an passé, on le rappelle, n'a pas réussi à remonter son retard de 2 buts accumulé au match aller face à l'équipe choc de cette saison de Ligue des Champions, le Bodø/Glimt. Pire que cela, les Interistes se sont inclinés une nouvelle fois, cette fois-ci à domicile sur le score de 2-1 et sont donc éliminés de la Ligue des Champions par les Norvégiens qui eux poursuivent leur fantastique parcours après avoir battu consécutivement Manchester City, l'Atlético Madrid et donc l'Inter Milan par 2 fois. Newcastle de son côté, après sa large victoire 6-1 sur la pelouse de Karabag, a tranquillement assuré son match retour à domicile face aux Azerbaïdjanais avec une victoire 3-2 au match retour. C'est le cas également du Bayer Leverkusen qui, avec un match toutefois sans but face à l'Olympiakos, assure sa qualification grâce à une victoire 2-0 au match à aller face aux Grecs. Mercredi, on a aussi le droit à du beau spectacle et du suspense puisque d'abord en début de soirée, l'Atalanta qui devait remonter un écart de 2 buts après le match aller face à Dortmund de s'est qualifié au bout du temps additionnel avec une victoire 4-1. Un autre club italien, la Juventus, lourdement défaite à l'aller face à Galatasaray 5-2, a aussi cru à une qualification pour la suite de la compétition puisque les Turinois ont réussi à pousser leurs adversaires du soir en prolongation avec une victoire 3-0 à l'issue du temps réglementaire. Cependant, la vieille dame a failli durant les 30 minutes supplémentaires et a concédé 2 buts, synonyme donc d'élimination pour la Juve. et de qualification, donc à contrario pour le gala. Enfin, le Real Madrid a aussi validé son ticket pour les huitièmes de finale tranquillement avec une victoire 2-1 au Bernabeu face à Benfica. Pour les huitièmes de finale, le PSG retrouvera Chelsea, un club qu'il connaît bien et avec qui il a des bons et des moins bons souvenirs ces dernières années. Pour le reste du tirage, Liverpool affrontera Galatasaray, le Bayern l'Atalanta. On aura le droit à un affrontement devenu presque une tradition depuis de nombreuses années entre Manchester City et le Real Madrid. De l'autre côté du tableau, le Barça affrontera Newcastle, l'Atlético Madrid fera face à Tottenham, le Bodø/Glimt sera opposé au Sporting et enfin Arsenal, vainqueur de cette phase de Ligue, affrontera le Bayer Leverkusen. On passe à la Ligue Europa puisque Lille faisait face à son destin jeudi dernier après une défaite 1-0 au match aller à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Grâce à un but d'entrée de l'increvable Olivier Giroud et un but de Nathan N'Goy en prolongation, les Lillois ont réussi à tout renverser et décrochent donc en Serbie leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour la suite, Lille aura gros à faire puisque les Dogs héritent du mauvais côté avec un duel face à Aston Villa, troisième de première ligue dès les huitièmes de finale. De son côté, Lyon, qui a terminé premier de la phase de ligue, et hérite du côté le plus clément et affrontera le Celta Vigo en huitième. Pour finir, on peut rapidement évoquer également le tirage de Strasbourg, que on n'oublie pas évidemment nos Strasbourgeois qui ont brillé dans la phase de ligue avec eux aussi une première place tout comme les Lyonnais à la clé et qui ont tout comme Lyon hérité du meilleur côté puisque les Alsaciens n'affronteront les grands favoris Crystal Palace et la Fiorentina qu'en cas de qualification en finale. Mais pour cela, il faudra d'abord affronter le club croate de l'HNK Rijeka, adversaire du Racing en huitième de finale. Tous les huitièmes de finale qui débuteront d'ailleurs dès la semaine prochaine. Et j'aimerais qu'on fasse nos jeux un petit peu autour de la table après ces tirages au sort. Comment voit-on la suite de parcours de nos clubs français, que ce soit le PSG en Champions League, Lille et Lyon en Ligue Europa ou Strasbourg en Conference League, monsieur?
On peut commencer par la Ligue des Champions. Mmh. Forcément, PSG Chelsea, c'est pas du tout évident comme tirage. Hein. Mmh. Franchement, c'est vrai qu'on en a parlé en off avec Robin, mais Chelsea, en fait, effectivement, a un très gros milieu de terrain et surtout a plein de joueurs qui sont très inégaux dans leurs prestations. Qui peuvent te sortir des prestations absolument exceptionnelles et du très médiocre aussi. Donc on sait pas forcément à quoi s'attendre par rapport à cette équipe de Chelsea et on sait pas trop à quoi s'attendre non plus par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain qui a nourri grand nombre d'incertitudes, que ce soit en Ligue 1 effectivement mais aussi en Ligue des Champions face à Monaco et avant aussi avec ce match face à Newcastle. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour Paris. Maintenant, c'est quand même le match parfait pour se relancer, croire en quelque chose. Et derrière, en plus, Paris affronterait Liverpool potentiellement. Là aussi, remake de la saison dernière. En tout cas, c'est moi je trouve que pour vraiment essayer d'aller le plus loin possible et peut-être jusqu'au bout, c'est un parcours qui forge et, ouais. Et c'est un parcours qui peut être hyper intéressant pour vous. Bah, effectivement, encore une fois, aller jusqu'au bout.
Hein. Bah, c'est un parcours du combattant comme tu l'as dit.
Oui, carrément, ça forge.
Avec c'est ça. Et puis sinon, c'était pas Chelsea, c'était le Barça. Qui affronte donc Newcastle. Est-ce que toi, t'aurais préféré, je suis pas sûr, tirer le Paris Saint-Germain plutôt que Newcastle? Comment tu vois les choses?
Non, Newcastle, c'est très bien. On les retrouvera en finale, le PSG. Mais pour le PSG aussi, je pense que c'est mieux de tirer un Chelsea qu'un Barça. Un Barça qui sera pas forcément complet dès les huitièmes, mais qui pourra retrouver quand même cette triplette Pedri, Rafinha, Yamal, qui, quand elle est alignée ensemble, fait très très mal. Donc c'était pas forcément l'aubaine pour le PSG. Donc je trouve ça bien qu'il soit tombé sur Chelsea. Après, ça va refaire un parcours 100% anglais, peut-être, pour aller jusqu'en finale, s'ils veulent décrocher une deuxième étoile, potentiellement. Mais c'est clair, c'est pas le plus simple, mais c'est ce qu'ils ont eu un peu l'année dernière aussi, un parcours pas si simple, avec en jouant Liverpool, qui était à ce moment-là peut-être la meilleure équipe d'Europe, quand même, la saison dernière. Donc on sait qu'ils peuvent le faire. Après, jusqu'où est-ce qu'ils ont? Je pense pas que ce soit pour eux cette saison non plus. Ils ont quand même montré des phases de moins bon cette saison.
Grosse fatigue. Hein. On a l'impression grosse fatigue physique.
Des blessés tout simplement aussi.
Pas de préparation cet été. Hein.
Ouais, non, ça
se ressent. On l'a vu contre Monaco. C'est physiquement, ça a l'air très très dur pour les joueurs.
Ouais, il va falloir sortir aussi, bah, effectivement, trois grosses performances contre trois top clubs européens, assurément, parce que dans ta partie tableau, t'as quand même effectivement Chelsea, Liverpool, Galatasaray, bon. Voilà, respect aussi, respect. Mais, non, le Real, après City, le FC Barcelone et même l'Atalanta, mais pareil, dans une moindre mesure, mais.
Le Bayern aussi. Ouais. Moi, personnellement, si c'était mon pronostic, je les vois potentiellement passer Chelsea. Je pense que ils ont peut-être un avantage. La fatigue physique, ça sera pas en tout cas une excuse, puisque Chelsea a eu quasiment la même préparation que le PSG, puisqu'ils sont tous les deux allés en finale de Coupe du Monde des clubs.
Et puis Chelsea ne voit pas ses matchs décalés aussi. Voilà. Alors que Paris a son match contre Nantes décalé.
Donc pour moi, ça sera pas vraiment une excuse. Mais personnellement, je les vois, je les vois sortir moi en demi-finale face à un Bayern que je vois vraiment favori de cette année en Ligue des Champions, que je trouve vraiment exceptionnel, avec une force collective assez folle. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Où tu vois le PSG s'arrêter, Mathéo?
Moi, plutôt en quart, je dirais. Je pense que Liverpool a une revanche à prendre et pourrait effectivement la prendre. Surtout que aussi, c'est pas les mêmes données en fin de saison. Paris est dans un fauteuil en championnat. Liverpool, c'est pas du tout la même histoire. Liverpool est presque plus dans la course au titre, mais par contre peut se rassurer en remontant des places et effectivement utiliser la Ligue des Champions et la Première Ligue simultanément pour essayer de remonter une certaine force. Et puis c'est une équipe qui monte en puissance aussi cette saison, qui a été vraiment moins bien au début, et puis là effectivement ça va mieux. Donc moi je les vois vraiment sortir contre Liverpool, et puis pour le favori final effectivement Barcelone ou Arsenal, et je pense que dans tous les cas ça sera la finale de cette année.
Ouais, il y a des chances, c'est clair.
Et
que
pour le Barça?
Pour le Barça, on parlait du peut-être mauvais côté en Ligue Europa. Là, il existe aussi. On va le dire en Ligue des Champions, où du côté gauche, c'est comme ça que ça apparaissait généralement. On retrouve des vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 2016. Alors que de l'autre côté, t'as Bodo Glimt, le Sporting, Newcastle. C'est pas non plus des bons clubs, mais avec tout le respect, c'est
différent. Et puis même Tottenham.
C'est ça, c'est pas des cadors européens. L'Atlético,
c'est pas non plus. Même si ils ont perdu, et je les joue ce soir, mais
des gros effectifs.
Pas non plus. Voilà.
C'est pas des cadors européens qui sont allés gagner des Ligues des Champions récemment. Le seul club qui fait vraiment vraiment peur, c'est Arsenal, qui roule pas mal sur toutes les équipes en Première Ligue et qui a de quoi aller chercher une finale, qui a roulé sur tout le monde aussi en Ligue des Champions. Donc c'est la demi-finale un peu évidente de ce côté du tableau, le Barça-Arsenal. Je pense que le Barça peut le faire quand même, parce que là aussi du côté du Barça, en première moitié de saison, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a mal avec la pubalgie, il y a eu Rafinha, Pedri, enfin bref, il y a eu énormément de blessés. Donc le Barça peut aller chercher une finale cette saison. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Contre le Bayern, j'y pense fortement.
Et un titre?
Un titre face au Bayern cette année, ça va être compliqué. Je les vois favoris quand même.
Puis Arsenal, faut dire aussi, mais je pense que si Arsenal gagne la PL, Arsenal gagne aussi peut-être la Ligue des Champions.
Ouais, il y a le quadruplé possible.
Ouais, parce qu'il y a vraiment cet aspect mental qui fait faille à Arsenal depuis des années et des années. Et là, effectivement, si tu l'as, tu l'as, quoi. Mais en tout cas, je pense. Moi, c'est mon
Arsenal, j'ai quand même cette image de choker qui va rester en tête.
J'ai des réserves, moi,
c'est pour ça. Si jamais il nous l'enlève.
Pour moi, c'est franchement, je les sens pas aussi conquérantes qu'un Bayern.
Même dans le jeu, je les trouve pas non plus exceptionnels, alors qu'un Bayern vraiment m'impressionne.
Ça, mine de rien, Arsenal met énormément de buts sur corner, sur coup de pied arrêté. Alors que le Bayern.
Encore ce week-end.
Alors que le Bayern, c'est essentiellement des buts dans le jeu. Donc, il y a cet aspect-là qui me fait dire que Arsenal, ça peut avoir un coup de moins bon quand même sur certains matchs.
Tout dépendra d'eux.
C'est ça.
Je pense.
Leur sort est entre leurs mains finalement.
Exactement. C'est beau.
On va peut-être passer pour l'Europa League. Nous prenons ce qu'on voit pour les Lyonnais et les Lillois. Tu le disais, du coup, Lille qui est un peu qui n'a pas eu de chance sur son tirage en tombant contre Aston Villa, mais Lyon, Celta Vigo. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Mathéo.
Alors Celta Vigo, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce que c'est quand même sixième de Ligue 1, Celta Vigo, c'est une équipe solide qui s'est qualifiée en Ligue Europa, donc dans tous les cas qui a toutes ses chances aussi d'aller le plus loin possible dans la compétition. Mais évidemment c'est un adversaire que tu dois prendre, et évidemment que cette année tu dois prendre ta revanche sur Manchester United l'année dernière. Évidemment il y a encore ce goût amer en Coupe d'Europe, et encore plus avec le calendrier qui est quand même très jouable. Effectivement la plus grosse équipe que tu joues potentiellement dans ton tableau, c'est le Betis. Séville, qui t'a battu effectivement, mais il y a plus de sérénité depuis. Il y a eu des recrues, il y a Hendrick, il y a toutes ces données là qui sont tout à fait différentes. Donc Lyon, pour moi, doit faire une ligne droite en finale, mais ça va dépendre aussi de beaucoup de données liées à la Ligue 1 et liées aussi à la Coupe de France. Si tu vas en bout en Coupe de France, tu dois sacrifier au moins une compétition. Laquelle tu sacrifies, c'est aussi ça, parce que la profondeur d'effectif est pas du tout la même que d'autres, effectivement.
Ouais. Ouais, notamment Aston Villa ou les clubs anglais qui ont en général une profondeur.
Même partout.
Partout aussi, c'est vrai.
Saison, mais on l'oublie, mais en championnat de Portugal, c'est invaincu, si je dis pas de bêtises, Porto. Donc,
je sais pas la stat, mais
en tout cas, ils ont resté très très longtemps invaincus.
Mais je crois qu'ils. Je me demande s'ils n'ont pas été battus récemment. En tout cas, il y a eu le match nul à la fin contre le Sporting, mais je sais plus, je vais chercher.
Et du côté de Lille, ça va en effet être beaucoup plus compliqué avec ce 8e contre Aston Villa. Après, si ça passe en quart, ce sera soit l'AS Roma, soit Bologne. Là aussi,
Bologne qui revient bien en plus cette saison.
C'est ça, ouais. Donc, vraiment un nouveau choc, une nouvelle grosse équipe que devra jouer Lille. Et puis, si ça passe en demi, ce sera sûrement Nottingham Forest ou Porto. Là aussi, des équipes qui sont plutôt en forme. Nottingham Forest qui est passé contre, c'était Fenerbahçe de Sidiki Chaïf qui avait effectué sa première passe décisive.
Et qui a marqué ce week-end aussi d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, avec Fener, pas contre Nottingham du coup, mais en Ligue turque. Donc ouais, pour Lille, ça semble...
Il va falloir du cardio.
C'est ça. Dès les huitièmes, va falloir se mettre dedans. Est-ce qu'on les sent passer en huitième? Enfin, en quart, du coup?
Ce sera un bel exploit. Ouais, honnêtement, je pense que je suis lillois, on s'arrête en quart. Génial. Franchement.
Après, on se souvient en conférence, c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, ça avait failli passer contre Aston Villa. C'était vraiment très très proche avec un but à la fin qui les avait emmenés au penalty. Ils avaient perdu à domicile, etc. Un but à la toute fin, alors qu'Aston Villa avait pas du tout existé dans ce match. Donc avoir la revanche potentiellement. Mais c'est sûr que Lyon, il y a beaucoup plus de possibilités d'aller au moins dans le dernier carré ou final, peut-être même au bout, on sait jamais, mais voilà, que Lille, parcours du combattant aussi de leur côté.
Une revanche à prendre contre Emiliano Martinez. Une fois de plus, j'imagine que Olivier Giroud sera lui aussi à 200% pour mettre des buts contre ce gardien adoré des Français, évidemment. Maintenant, du côté de Strasbourg, comment on le sent?
Ouvert aussi. Très ouvert. Strasbourg a battu en plus Crystal Palace. Crystal Palace qui réalise pas une saison très simple.
Je parlais des favoris, oui, mais Palace et Lafio de base sur le papier c'était les favoris, mais c'est vrai que leur saison sont pas exceptionnelles, mais sur le papier c'était elles. Mais voilà. Après Strasbourg, il y a le Rayo. Parce que je m'étais trompé tout à l'heure, j'avais dit par rapport à Lyon, mais il y a le Rayo Rayo Vallecano dans leur partie. Alors, sinon à part ça.
Si t'es Strasbourg avec l'effectif que t'as et que t'as peur du
Rayo, c'est pas loin d'être un tout droit final et potentiellement la coupe.
Mais on verra ça en tout cas dans les semaines et les mois à venir si les équipes françaises pourront atteindre les finales de ces ligues européennes. En tout cas, on a de quoi penser pour. C'est pas très bien dit, mais on comprend.
C'est
ce
positif.
Que je veux dire. Voilà, c'est ça. On va enchaîner avec un peu de tennis avec toi, Robin.
Oui, puisque on va désormais évoquer le tennis et on a ce vendredi le plus gros Masters 1000 de la saison qui commence à Indian Wells. On a de nombreux Français au rendez-vous avec d'abord Arthur Fils, Arthur Rinderknecht, Corentin Moutet et Hugo Humbert qui sont tête de série, ce qui signifie donc qu'ils échappent au premier tour et qu'ils sont directement qualifiés pour le second. Pour les autres, on retrouve Terence Atman qui affrontera Grigor Dimitrov au premier tour. Arthur Cazaux, 2 mois sans avoir joué après son abandon à Brisbane début janvier, affrontera Michael Zeng. Giovanni Mpeci Pericard qu'on voit très en difficulté dans le jeu depuis le début de la saison. Et d'autant plus la semaine dernière à Dubaï, qui affrontera le Polonais Machrak, 54e mondial. Quant à Alice, affrontera lui l'Australien Adam Walton. Adrien Manarino affrontera Matteo Berrettini, pardon, qu'il avait battu l'an passé à Pékin. Et enfin, notre Gaël Monfils national sera lui aussi de la partie, puisqu'il a obtenu une wildcard, c'est-à-dire une invitation pour ce tournoi, et affrontera un joueur issu des qualifications dont on ne connaît pas encore l'identité. Du côté des favoris, tout le monde est présent, aucune tête d'affiche ne manque à l'appel. Sinner et Alcaraz restent évidemment les deux grands favoris, mais attention, puisque les deux monstres peuvent avoir des trous d'air, comme on l'a vu à Doha le mois dernier. L'Italien numéro 2 mondial s'est en effet incliné face à Mensik en quart de finale, et Alcaraz a été de nombreuses fois mis en difficulté dans ce tournoi, notamment face à Karen Khachanov, malgré une victoire et une victoire cinglante à la clé face à Arthur Fils. Certains joueurs pourraient alors venir titiller les deux aliens, comme par exemple Daniil Medvedev, même si on y reviendra avec tout ce problème de non-possibilité de transport, etc., à Dubaï, avec tous les problèmes qui se passent en ce moment géopolitiquement. Daniil Medvedev, après un très bon début d'année, une victoire à Brisbane mi-janvier, a de nouveau décroché un titre la semaine dernière, donc à Dubaï, en ayant affiché un niveau de jeu très convaincant. Parmi les autres outsiders du tournoi, j'ai également sélectionné Mensik, que je l'ai évoqué, donc a atteint les demi-finales à Doha après une victoire face à Sinner. Et il affiche vraiment un niveau de jeu et une maturité assez exceptionnelle dans son jeu. Attention tout de même pour le Tchèque, puisque les conditions aux États-Unis seront assez lentes, par conséquent sa qualité première que sa première balle et sa force de frappe pourraient alors avoir une influence réduite. Et enfin Arthur Fils, je l'ai également sélectionné parmi mes outsiders, puisque il est de retour à la compétition seulement depuis un mois, mais il affiche vraiment un excellent niveau de tennis et il a donc d'ailleurs atteint la finale à Doha, défait face à un Carlos Alcaraz juste intouchable ce jour-là. Mais on voit un Fils vraiment dans une très très grande forme et qui a un tirage plutôt favorable, même s'il héritera certes de Lorenzo Musetti, tête de série numéro 5 au troisième tour. Cependant, beaucoup d'incertitudes planent autour de l'Italien, puisqu'on l'a plus vu sur les cours depuis son abandon à l'Open d'Australie il y a plus d'un mois. C'est pourquoi Arthur Fils, qui lui est en forme et assez frais, pourrait avoir une grosse carte à jouer. Ça serait potentiellement ensuite Alexander Zverev en quart de finale, qui l'a déjà battu sur dur l'an passé, également dans un Masters 1000 et également aux États-Unis, puisque c'était à Miami que le Français s'était imposé en 3-7 face à l'Allemand. Elle est donc selon moi là la grosse chance française dans ce tournoi et j'aimerais voir votre avis les gars sur ces potentielles chances françaises ou voilà on peut avoir potentiellement un gros tournoi d'Arthur Fils qui revient bien à la compétition.
Bah ça ouais, j'avais été un peu impressionné quand même par son jeu à Doha, je le voyais pas revenir aussi fort aussi vite. Donc ça fait bien plaisir, c'est clair que c'est clairement elle est belle celle-là. l'espoir français du tennis. Sans aucun doute, c'est sur lui qu'on va un peu miser pour ces prochaines années. Et il a quand même un tirage où il va falloir enchaîner Musetti et Zverev ou Medvedev.
Il y a Ogier Aliassime entre. Donc voilà. En fait, je me dis que si il garde, en fait, on ne sait pas. C'est des joueurs vraiment. Ogier Aliassime là, il est dans une bonne forme. Il est un petit peu irrégulier. Zverev, on ne sait jamais trop. Voilà, quand on se rapproche du bout du bout, c'est un petit peu un choker. C'est un peu voilà. Et puis Musetti, voilà, comme je l'ai dit, il est en grande forme à l'Open d'Australie. On en avait parlé face à Djoko, mais il l'a abandonné depuis. Il n'a pas joué. Donc physiquement, on ne sait pas trop. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il a peut-être une carte à jouer dans ce tournoi. À voir. Je ne sais pas ce que t'en penses, Mathéo, toi.
Je pense plus ou moins la même chose. C'est vrai que Arthur Fils, là où il nous avait marqué l'année dernière, c'était qu'il était quand même assez régulier, Arthur Fils, jusqu'à lui ouvrir les portes du top 20. Donc quand même, c'est assez beau. Là, il est bien redescendu. Forcément, il pourrait encore perdre des places s'il fait un mauvais tournoi. Donc oui, il y a quelque chose à jouer. Pour moi, il y a plus d'incertitudes. Mais alors après, ça c'est effectivement plus par le fait que Zverev soit un énorme choker, mais sur justement le cas Zverev que le cas Musetti. Maintenant, je trouve que c'est une grosse épreuve pour lui, mais c'est le premier vrai gros test quand même. Même s'il y a eu Alcaraz avant, mais c'est le premier vrai gros test qu'il va avoir pour la suite de son année. Et effectivement, on regardera ça avec attention. Ouais.
Et puis je l'ai évoqué aussi, on en a parlé un peu en off, ce problème qu'ont certains tennisman là actuellement avec les conflits qui se passent dans le monde, c'est que Daniil Medvedev, donc j'ai cité dans les outsiders, est encore bloqué alors que le tournoi commence samedi. Il est encore bloqué à Dubaï. C'est le cas également de, si je me trompe pas, de Rublev, de Khachanov et de Talon Grigspor, donc qui était le finaliste face à Daniil Medvedev à Dubaï. C'est aussi un problème. Donc à voir, à suivre dans les prochaines heures, un long périple. Et puis on sait pas, donc Medvedev qui est en grande forme, on sait pas trop comment il va arriver psychologiquement, physiquement après tous ces problèmes là. Donc affaire à suivre.
Tout à fait, on suivra ça évidemment dans les prochains jours. On va passer rapidement sur les JO. Voilà, on va en parler rapidement parce que ça fait quand même un petit bout de temps que c'est fini. On n'avait pas pu en parler dans le studio, donc on a suivi ça de près. J'avais envie de vous demander, quand même, parce que la France a donc battu son record de médailles et son record de titres sur une Olympiade d'hiver. C'est quoi le moment qui vous a marqué? Il y aura sûrement du biathlon, et est-ce que je peux vous demander autre chose que du biathlon?
Bah alors moi c'est vrai que pour être tout à fait franc, et je l'ai dit à chaque fois, j'ai pas énormément suivi les JO d'hiver, honnêtement. Donc vraiment j'ai suivi ça de loin, mais c'est vrai que si on parle de manière chiffrée, quatrième place, effectivement, 23 médailles, et on est obligé de parler du biathlon quand même, parce 13 médailles biathlon, 6 d'or, enfin c'est des chiffres historique. Assez impressionnants, donc forcément, même en ayant suivi ça de loin, c'est vrai que ça a été des JO d'hiver assez intéressants, et ça peut relancer aussi la machine, même si la machine en France elle a toujours fonctionné par rapport aux jeux d'hiver, notamment via le biathlon, via Martin Fourcade, etc. L'après, c'est un questionnement. On est à l'après et ça marche toujours aussi bien, donc c'est quelque chose de très positif pour le sport français, ouais, carrément.
Tout à fait, ouais. Là, il faudra peut-être relancer, c'est du côté du ski alpin, où une seule médaille a donc été décrochée durant ces JO. C'est pourtant un peu aussi l'épreuve phare des JO, quand même, du ski alpin. C'est dommage que la France n'arrive pas à briller. De ton côté, toi, Robin, qui a peut-être un peu plus suivi, est-ce que tu as une image que tu retiens?
Bah forcément, on va vite fait quand même évoquer le biathlon, surtout ces relais qui ont été quasiment similaires en fait, puisque on fait un tour de pénalité, on se retrouve dans les dernières places. Il me semble que même les hommes sont derniers à l'issue du premier tir.
50 secondes en
retard. Et c'est exceptionnel quoi. Le renversement, le deuxième relais, c'est Lou-Jean Monod et Emilien Jacquelin qui font un relais exceptionnel, qui reviennent aux premières places. Et voilà, vraiment le biathlon. Après moi, je vais pas faire le mec, mais je m'y attendais un petit peu dans le sens où voilà, on est assez performant et que cette saison encore plus, on est extrêmement performant, que ça soit individuellement ou collectivement sur les relais. Donc voilà, mais je m'attendais quand même pas à autant performer. Franchement, c'était très beau. Et sinon, à côté de ça, j'aimerais bien parler aussi de Mathis Desloges. Ouais. Mathis Desloges qui a fait plusieurs médailles d'argent. Je sais plus si c'est deux ou trois, parce qu'il me semble que c'est peut-être deux individuellement et trois avec le relais. Je sais plus.
Possible. Ouais,
Je ne le connaissais pas du tout. Et honnêtement, voilà. Après, il y avait toujours un homme dont je voudrais parler qui m'a énormément impressionné. C'est Johannes Klebe que j'ai découvert et qui a fait preuve d'une domination assez exceptionnelle sur toutes les courses qu'il a fait avec 6 médailles d'or, etc.
Le maître de son art finalement.
Ah vraiment, c'était exceptionnel. Mais voilà, Mathis Desloges que je connaissais pas du tout et qui a fait forte impression. Et aussi une discipline que j'ai découverte, je n'ai plus le nom en tête, là j'essayais de rechercher, mais où il y avait Emilia Ropp et un autre français qui étaient deux favoris d'ailleurs et qui ont gagné en
ski alpinisme.
Le ski alpinisme, c'est ça, qui était une discipline assez particulière. Assez particulière que j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié à découvrir et voilà où ils ont bien performé. Emilia Ropp qui était grande favorite, malheureusement elle a fini deuxième en individuel, mais par contre sur le relais ils ont bien gazé, ils ont terminé premier, donc bravo à eux.
Mais tout à fait, moi aussi c'était l'image que je voulais retenir, cette médaille d'or sur le relais en ski alpinisme pour la première de ce sport au JO, donc des Français qui forcément marquent l'histoire de leur sport avec ce titre pour la première fois que ça arrive au JO. Donc ouais, moi c'est l'image que j'ai retenue de ces JO hors biathlon qui nous a fait rêver évidemment tout le temps de la compétition. On va rapidement enchaîner, je vais parler de basketball et de l'équipe de France qui affrontait la Hongrie et qui s'est imposée dans un premier temps 74-71 grâce au game winner du capitaine Sylvain Francisco qui a planté un immense dagger à 3 points sur la dernière possession française. Le match retour a été largement dominé par les Français avec une victoire 98-79. Le Scholten, Nathan Dessouza, a eu la chance de connaître sa première sélection en bleu. Il n'a malheureusement pas pu inscrire ses premiers points. La France se qualifie donc pour le second tour des qualifications pour le Mondial 2027. Les prochaines fenêtres auront lieu cet été. On ne sait pas encore qui va affronter la France, mais on sait que les joueurs NBA seront de retour, mais peut-être pas dès la première fenêtre de rencontres, et notamment pour Victor Wembanyama en cas de très bon parcours en NBA en allant jusqu'en finale, ce qu'on lui souhaite évidemment. On va partir de ton côté, Mathéo, nous parler un peu de MotoGP.
Oui, puisque le coup d'envoi de la saison MotoGP 2026 a eu lieu ce week-end et il s'est passé des choses, avec dans un premier temps la course sprint remportée par Pedro Acosta qui a vu Marc Marquez être obligé de lui laisser la première place après un léger contact dans le dernier virage de l'avant-dernier tour. Une victoire polémique, marquée aussi par la chute du poleman Marco Bezzecchi, l'Italien qui a pris sa revanche le lendemain puisqu'il a écœuré la concurrence dimanche sur le circuit du Buriram. Au guidon de son Aprilia officiel, il a pris de l'avance dès l'extinction des feux et personne ne l'a jamais revu. Résultat, 6 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée et une troisième victoire consécutive si l'on compte la fin de saison dernière. C'est une première pour un pilote Aprilia. Mais le vrai coup de tonnerre se trouve chez la concurrence et la fin d'une hégémonie. Tenez-vous bien, pour la première fois après 88 courses consécutives, il n'y a aucune Ducati sur le podium. Le premier représentant de la marque rouge, donc c'est Fabio Di Gianantonio, le pilote de la VR46, qui a terminé seulement sixième. Mais où est donc Marc Marquez? Où est donc Pecco Bagnaia? L'Espagnol champion du monde nous a offert un show habituel, mais a vu ses espoirs s'envoler au 21e tour, faisant assez rare une crevaison après avoir mordu un vibreur pour un zéro pointé. Quant à l'Italien, le champion du monde de 2022 et 2023 était transparent, une huitième place et des doutes août pour changer. Et nos Français dans tout ça, eh ben on va pas se mentir, l'ambiance n'était pas au beau fixe. Johan Zarco a fait le job sans fulgurance, terminant à une 11e place alors qu'il s'était longtemps battu pour intégrer le top 10. Il ramène 5 points avec une Honda qui manque cruellement de vitesse de passage. Un GP Thaïlande plus compliqué pour Fabio Quartararo. Sa Yamaha est toujours aussi handicapante, à tel point que la marque japonaise l'a dispensé de micro après la course pour lui éviter de craquer. 30 secondes de retard sur le vainqueur, le gouffre est immense, 2 petits points et seulement une 16e place. Frustrante. Lui qui devrait quitter Yamaha en 2027, c'est presque acté. Peut-être pour Honda, à ce niveau-là, le flou reste assez immense.
Ouais, malheureusement, ça se passe pas très bien pour nos Français en MotoGP.
Zarco, ça va, mais c'est plus Quartararo, c'est compliqué.
Mal, c'est dommage. Il avait fait des belles saisons, c'était il y a cela 3 ans.
Il était champion du monde 2021, ouais, 2022, il doit gagner et Bagnaia se réveille. Et puis, là, c'est trop compliqué parce que la Yamaha est vraiment une moto médiocre.
La mécanique ne fait pas le taf, le pilote ne peut pas compenser, malheureusement.
Donc, saison à blanc pour Quartararo qui devrait être très loin dans les positions.
On espère qu'il se relancera la saison prochaine, évidemment. Et on va vous laisser sur ça. On va vous souhaiter une bonne soirée, un bon match de foot pour ceux qui vont regarder ce Barça Atlético et cette potentielle remontada de Barcelone. On y croit évidemment. On va vous dire à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bonne soirée.